Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette. On fait le tour aujourd'hui de toutes sortes de destinations accessibles. Donc, on se prépare pour le voyage avec Aube Savard. On regarde aussi au large qui s'en vient cet été, le rendez-vous 2017. C'est une course de grands voiliers et on va parler de ça, bien sûr, avec Isabelle Ducharme, présidente de Kéroul. On reçoit notre chroniqueur techno Vincent François pour mieux voyager sur le web ou ailleurs en compagnie de notre clavier adapté. Et c'est aussi l'occasion de parler du 42e colloque de l'Institut sur les troubles d'apprentissage. On en parle notamment avec une présentatrice de la Commission des droits de la personne. Dans un instant, une histoire crève-cœur qu'on comprend mal. Un couple aimant, inséparable, sont séparés de force chacun dans un CHSLD différent. Et on en parle avec la députée caquiste Lise Lavallée sur Canal M, la radio de Vues-et-Voix. Le gouvernement table en ce moment sur une loi, la loi 115, contre la maltraitance des aînés et des personnes vulnérables. Donc, dans « personnes vulnérables », il faut entendre aussi « personnes en situation de handicap ». Mais à cette occasion, on a entendu, on a témoigné de toutes sortes d'histoires graves, inquiétantes, notamment en CHSLD. Peut-être que vous avez vu passer la nouvelle, peut-être que vous avez encore ça en tête, il y a une histoire crève-cœur. Monsieur et Madame Cloutier, mariés depuis 60 ans, qui sont séparés de force depuis une année, chacun, chacune, dans un CHSLD. Donc, la députée caquiste de Repentigny, Lise Lavallée, a pris le dossier en main. Bonjour, Madame Lavallée.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous.
Ça fait plaisir.
Écoutez, l'histoire du couple Cloutier est assez révoltante, mais est-ce qu'il s'agit d'une pratique très courante selon vous?
Bien, c'est le premier cas qui ressort médiatiquement, mais c'est un cas qui risque de survenir dans le futur parce que les gens vivent de plus en plus vieux, puis effectivement,
évidemment,
à un moment donné, arrive la perte d'autonomie. Donc, il va falloir que le système envisage ces cas-là, puis voir de quelle façon on va y répondre. Ce qui n'est pas simple, hein? On doit avouer, parce qu'actuellement, on a 3100 aînés à peu près qui attendent une place en CHSLD.
Ah, c'est beaucoup, oui.
Donc, qu'est-ce qu'on fait dans des situations pareilles? Des fois, les règles administratives sont peut-être trop rigides.
Avant qu'on parle des règles administratives rigides, c'est ça qu'on va en parler dans le cadre de cette entrevue. Vous êtes notaire de formation.
Oui.
Passez-moi l'expression. Est-ce qu'il y a une pogne juridique pour aider des personnes comme le couple Cloutier là, qui veut demeurer ensemble? Est-ce que c'est le droit à la vie privée, la sécurité? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je comprends pas votre question.
Ben, en fait, avant le projet de loi, il n'existe pas quelque chose déjà dans les droits des usagers qui aiderait ce couple-là? Tu sais, pas un droit écrit quelque part, de la charte jusqu'à la politique, le cadre de référence pour le CHSLD?
Oui, non. Mais pas vraiment, parce que faut penser que des fois, dans des situations d'un couple comme ça, les gens tombent pas en perte d'autonomie en même temps.
Ouais.
Donc, parfois, c'est un des conjoints qui entre en CHSLD, puis l'autre personne peut être en perte d'autonomie peut-être un peu plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, on ne sait pas.
Mm-hmm.
Fait que c'est sûr que tant qu'il y en a un qui est correct, va aller visiter son conjoint qui est placé, mais à partir du moment où les deux, c'est là que pose le problème, lorsque ça arrive aux deux ensemble.
Mais ça ne va pas arriver de plus en plus souvent?
Bien, c'est ce que je pense, c'est qu'effectivement, ça va arriver de plus en plus souvent parce que les gens vivent de plus en plus vieux et la demande va aller en s'accentuant, excusez. Donc, c'est pour ça qu'il faut entamer une réflexion, voir qu'est-ce qu'on fait dans ces cas précis-là, en tenant compte du fait qu'il y a aussi des listes d'attente au niveau des CHSLD.
Oui, sans long que vous l'avez dit, effectivement. Mais c'est quoi le problème dans le système de santé qui mène à ces situations, d'après vous?
Bien, c'est qu'on n'arrive pas à s'adapter. On a des règles qui sont rigides, des règles... Des fois, on le voit à d'autres niveaux aussi, des règles uraneuses. Donc, voici comment on règle ça, certaines situations, puis on ne déroge pas.
Ah oui, on s'adapte pas aux besoins des personnes en particulier.
Effectivement. Puis l'humain, c'est l'humain. Donc, on peut pas toujours les mettre dans une case précise qui répond dans notre cahier de règles administratives. Donc, il faut être capable de s'adapter, puis de voir dans ce cas précis-là comment on fait les choses. Parce qu'il faut toujours, parce que si on fait passer quelqu'un devant des gens qui sont sur une liste d'attente, on va déplaire aussi. Ouais. Donc, de quelle façon, dans ces cas précis-là, on pourrait adapter la situation pour éviter que ces personnes-là soient séparées alors qu'ils ont vécu énormément d'années ensemble.
Mais dans le cas qui nous préoccupe, c'est 60 ans de mariage, c'est immense. Écoutez, on a identifié ensemble le problème, on a énoncé le problème. Maintenant, là, il y a la loi 15 qui est sur la loi 115, pardon, qui est sur la table. François Paradis, lors du dépôt à l'automne dernier, avait trouvé la loi très molle, pas très convaincante. Aujourd'hui, comment vous la trouvez, la loi qui est proposée en ce moment?
Bien, toujours aussi molle que mon collègue le dit. Puis hier, on a eu la sortie de Mme Marguerite Blais, qui était la ministre des Aînés à l'époque au sein du gouvernement du Parti libéral, qui a fait une sortie avec mon collègue François Paradis. Puis ils mettent le doigt tous les deux sur le bobo. C'est qu'à un moment donné, on peut bien parler de maltraitance, mais il faut aussi voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Là. Même dans ma pratique, on envoyait des situations de pression familiale pour influencer la personne qui vieillissante, puis qui ne veut pas se retrouver tout seul, tout ça. Tout le monde a eu connaissance de ce type de comportement-là. Fait que c'est pas juste en CHSLD, c'est pas juste en centre de personnes âgées, mais c'est aussi des fois au sein de la famille proche. Puis je pense qu'il faut que la loi ait du mordant. Il faut que les gens sentent que s'ils font quelque chose comme ça, mais ça va être dénoncé, puis il va y avoir des pénalités, il va y avoir des punitions qui vont être attachées à ça.
Donc, faut qu'elle ait des dents, cette loi-là, on vous entend. Vous avez même proposé, en fait, votre collègue péquiste a proposé d'inclure, je parle d'Harold Lebel, a proposé d'inclure le concept de maltraitance institutionnelle. Comment vous réagissez à ça?
Écoutez, je pense qu'il faut démontrer de la sensibilité puis un peu d'humanité au niveau des soins de santé. Et lorsqu'on parle de soins de santé, d'autant plus lorsqu'on est face à des personnes qui sont vulnérables. Donc, c'est sûr qu'on a eu plein de cas, tu sais, l'alimentation,
mais qu'est-ce qu'on fait avec les institutions? Est-ce que dans ce cas-là, dans le cas qu'on vit en ce moment, il n'y a pas un peu, on pourrait le dire, là, nommons-le, de violence pour appliquer des règles administratives? On y va très durement là, contre un couple qui a besoin et qui vit ensemble.
Je pense qu'il faut sensibiliser les gens qui travaillent dans les CHLD au fait qu'on doit... puis je veux pas critiquer le travail qu'il fait parce que je suis convaincue que les personnes qui travaillent en CHSLD font du bon travail puis qu'ils démontrent l'humanité, mais il y a peut-être des dérives à quelque part, puis il faut les dénoncer, ces dérives-là, parce qu'on va, on s'en va tous vers ça.
Ah ben oui, ça c'est ça.
On s'en va tous vers ça. Puis... Fait qu'il faut qu'il y ait une question de respect de nos aînés, puis de leur offrir le mieux parce qu'ils ont contribuer toute leur vie aussi au service qu'on offre à la population.
Écoutez, c'est touchant. Et effectivement, on devrait être plus sensible aux besoins des aînés. Mais là, il y a la loi 115 sur la table. Qu'est-ce qui manque pour qu'une situation comme celle-là ne se produise plus?
Mais moi, je pense que la dénonciation, il faut qu'il y ait plus de mordant. Il faut qu'on puisse dénoncer. Et il faut qu'il y ait des obligations de dénoncer. Puis il faut qu'il y ait des pénalités, qu'il y ait des punitions lorsque les gens posent des gestes de maltraitance. Puis c'est pas juste dans les centres, c'est aussi autour des personnes, les personnes qui côtoient les personnes vulnérables, parce qu'on en a tous vu. C'est pas juste des gens en CHSLD, ce n'est pas que là, que cet endroit-là, mais c'est aussi autour des personnes, puis il faut être vigilant. C'est pernicieux, ces gestes-là. C'est pas toujours...
Fait qu'au fond, ce que vous proposez, puis je sais pas si ça va être inclus, le principe est adopté, on est presque en fin de course là, pour ce projet de loi-là. Donc, vous voudriez qu'on inclue la dénonciation comme moyen de remédier à des situations comme celle-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va avoir quand même les ressources? Parce que là, je pose la question à vous puis aux gens qui nous écoutent. Là. Chacun de leur côté, ce qui en coûte à l'État, c'est à peu près, en moyenne, plus de 140 000 $ pour qu'ils soient les deux dans des CHSLD séparés. Avec 140 000 $ on n'aurait pas pu peut-être leur offrir du soutien à domicile à la maison, on n'aurait pas pu éviter qu'ils doivent se déplacer comme ça, de manière forcée, dans des CHSLD?
Mais votre question est pertinente. Effectivement, on a aussi un problème au niveau du soutien à domicile. Moi, dans ma région, c'est un problème. On veut, puis effectivement, ça coûte moins cher au système, mais il faut dire que quand les gens vont en CHSLD, ils payent aussi en fonction des revenus qu'ils ont.
Ouais.
Mais c'est toujours préférable que des gens puissent demeurer à domicile. C'est plus simple pour un couple, mais les services sont pas toujours là. Ouais. Donc, le gouvernement dit, ben on met assez d'argent, puis on soutient. Mais en tout cas, moi, si je regarde dans mon coin, c'est nettement insuffisant. Donc, il faut aussi que l'argent suive. On ne veut pas les avoir dans le système, mais à ce moment-là, donnons le soutien nécessaire pour que les gens puissent vivre à domicile le plus longtemps possible et de la meilleure façon possible aussi, la plus sécuritaire possible.
Lise Lavallée, on vous entend. Lise Lavallée, députée caquiste de Repentigny. Merci beaucoup de votre intervention. Et puis, on vous suit, j'imagine, puisque vous allez participer à la discussion pour le reste de l'adoption, en vue de l'adoption du projet de loi.
Je travaille avec mon collègue François Paradis, donc c'est sûr que c'est un dossier qui nous préoccupe et qu'on suit attentivement.
Parfait.
Puis, ce matin, on a appris que la ministre avait une certaine ouverture. On verra jusqu'à quel point.
OK. Merci beaucoup, Mme Lavallée.
Merci beaucoup.
Quand on veut partir plus ou moins loin, ça commence par soi. C'est une bonne idée de départ, ça. Vous allez comprendre un peu mieux où on s'en va avec Aube Savard, chroniqueur Destination. Bonjour, Aube.
Bonjour.
Merci d'être là.
Ça fait plaisir, comme toujours.
Bon, avant de partir en voyage, Aube Savard, il faut bien se connaître. C'est un peu ce que vous proposez. Expliquez-nous ça mieux.
En fait, ce qui est important, c'est de se questionner à savoir comment, dans notre quotidien, on réagit face à des situations qui sont inusitées.
Ah oui.
Face à des mauvaises surprises. Si, par exemple, on se dit, tiens, je vais aller dans tel restaurant et qu'on arrive devant le restaurant et finalement, on ne peut pas rentrer parce que c'est inaccessible, c'est quoi notre réaction? Est-ce qu'on passe 20 minutes, une demi-heure à fulminer contre le resto? Où on se dit, ah ben c'est pas grave, on ira au resto d'à côté. Ça peut
c'est
faire
pertinent
une...
comme question. Mais des fois, l'indignation, c'est pratique. C'est juste qu'en voyage, ça peut arriver souvent.
C'est ça.
Okay.
Exactement. En voyage, c'est le genre de situation qui peuvent se produire très régulièrement. Et surtout, c'est que si on veut qu'il n'y ait aucune mauvaise surprise, il va falloir se préparer beaucoup plus minutieusement.
Ouais.
Ce qui nous enlève une certaine forme de liberté sur place également.
OK. Donc, il faut choisir si on est le libre ou l'organisé.
C'est un petit peu ça.
À partir de notre réaction au stress.
Oui. Et puis, en fonction de ça, ça va nous permettre de choisir une destination. Si on est plutôt libre et que les mauvaises surprises ne sont pas si graves que ça et qu'on est capable de s'organiser avec le moyen du bord, peut-être qu'une destination moins accessible va bien correspondre finalement à notre personnalité. Mm-hmm. Si par contre, on veut avoir aucune mauvaise surprise, je vous conseille une destination qui est jugée très accessible. Donc, vous allez avoir une meilleure expérience de voyage.
Bon, Aube Savard, vous nous le dites, vous avez voyagé beaucoup. Où vous avez vécu le plus de stress?
Oh mon Dieu, c'est quand je me suis fait mordre par un chien au Vietnam.
OK, oui.
Je sortais d'un dépanneur et puis pour entrer dans le dépanneur, j'avais dû utiliser mes béquilles. Moi, quand je voyage, j'utilise un fauteuil roulant manuel, mais quand je marche dans la vie de tous les jours, j'utilise des béquilles. Donc, j'ai pris mes béquilles, je suis rentrée dans le dépanneur et en ressortant, il y a un chien qui m'a mordu la foufoune.
Et là là! Voilà! On l'a dit à l'émission.
Voilà, exactement! C'était à presque rien, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chiens dans ces pays-là, en Asie, qui ont la rage.
Ah oui.
Et donc, il suffit d'avoir une minuscule entaille pour qu'on doive absolument recevoir des immunoglobulines et des vaccins. Et donc, les immunoglobulines ne sont pas disponibles partout. Donc, j'étais surtout frustrée, en fait, parce que je me disais, là, on vient de fucker mon voyage. Excusez-moi.
Ah ouais. Parce qu'il fallait que vous trouviez absolument tout ça, puis une clinique potentiellement.
Oui, exactement. Et assez rapidement également, parce qu'il faut pas recevoir le vaccin, les immunoglobulines, trois semaines plus tard.
On va faire attention, on est en train de donner au monde pas trop envie d'y aller. Et dites-vous qu'il n'y a pas des chiens dans tous les dépanneurs.
Non, exactement.
Faut d'abord dire ça. Mettons que revenons à la maison, parce qu'on n'est pas encore parti. Revenons à la maison, on n'est pas encore parti, donc. Comment on doit choisir notre destination? C'est quoi les outils là, qui sont à notre disposition? Là? Puis on ne va pas au dépanneur demander où on veut aller. Là,
non, ce n'est pas une bonne solution. Bon. Non, pas du tout. Sans dire, on va vous dire, retournez chez vous, madame.
Voilà. Donc, quels sont les outils?
En fait, il y a trois livres qui sont vraiment excellents et que je conseille, mais beaucoup. Mm-hmm. Du petit futé que plusieurs connaissent sûrement, il y a le guide des handis voyageurs.
Ah oui!
C'est un guide qui est extrêmement complet, c'est-à-dire qu'il va donner des informations sur le pays de manière générale, mais également sur les conditions d'accessibilité du pays, sur le handicap, comment c'est perçu dans ces pays-là, et qui va également donner quelques références comme des agences de voyage qui vont vous permettre, si vous voulez, un voyage... sans anicroche, de pouvoir faire un beau voyage dans ces pays-là. Donc, et ça couvre tous les pays. Donc, il y a autant les pays en voie de développement que les pays développés. Et donc, ça donne vraiment une super bonne indication.
OK. Il y a d'autres ressources aussi?
Oui. En fait, je me suis rendu compte que le Petit Futé avait aussi sorti un guide, exactement comme le guide des handis voyageurs, mais un spécifique à la France.
Ah oui?
Oui, donc il s'appelle « Handis tourisme, guide de la France accessible ». Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas très cher. Vous allez sur petitfouté.com, dans la boutique, sous les guides thématiques, et ça va vous coûter grosso modo 22 $ à peu près.
OK. Ou 15 euros si on préfère l'euro.
Oui, voilà.
Exactement. Faut choisir.
C'est ça.
Il existe aussi des sites web gratuits, Aube.
Oui. Ils vont plus vous donner des indications sur des services, des fournisseurs accessibles.
OK. Donc, on pense...
Des agences de tourisme, quels sont les bus qui sont accessibles et quels sont les sont pas, les sections, par exemple, sur les ministères du tourisme qui vont parler de l'accessibilité.
OK.
Donc, c'est quand même des bonnes indications. Oui, c'est
puis,
ça.
Puis, on pourrait les nommer. On pourrait commencer par le plus connu, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a Isabelle Ducharme, en fin d'émission, qui vient nous rendre visite.
Ben
donc,
oui.
Il y a d'abord le kiroule.qc.ca.
Oui, tout à fait.
Il faudrait peut-être l'épeler, hein, parce que les gens le voient pas toujours. Donc,
Kiroule.
Je l'ai dit comme les sœurs d'autrefois. Vous saviez que les bonnes sœurs au Québec, au lieu de dire, en tout cas, pas vrai, Q, elle disait qui. Oui,
je vous
l'apprends. Non, mais il faut quand même étendre un peu la culture dans cette émission. Donc, le kiroule.qc.ca. On va-tu y arriver?
Oui,
on va-tu arriver à partir en voyage?
Mais moi, je pars puis j'ai tout le temps. Non, ça non, que t'es mal parti avec moi.
Non, mais c'est très bien parti. Il faut dire aussi aux gens qui nous écoutent qu'avec nous en studio, il y a Vincent François déjà. Il arrive difficilement à masquer quelques rires. Donc, juste dire les rires au loin que vous entendez, c'est Vincent François. Donc, on revient à notre site web.
Voilà.
Très important. Donc, KEROUL.QC.CA, c'est une des premières destinations de référence là, sur le web pour avoir de l'information.
Oui, tout à fait. Il y a même,
même
un
niveau
lien...
local.
Oui, bien, niveau local, c'est très, très, très complet. Mm. Et au niveau international aussi, il y a quelques références, des liens Internet où on peut aller qui peuvent vraiment être quand même d'une bonne augure, là.
Ah, ben c'est aidant, c'est bien. Oui. Il y en a un autre aussi, il est assez joli, que, enfin, je n'ose pas le prononcer. Allez-y, prononcez-le.
Pantou.org.
Bon, P-A-N-T-O-U.org. Donc, oui. Qu'est-ce qu'on trouve là à Pantou.org?
C'est un répertoire international, justement, de fournisseurs de services accessibles, mm-hmm. un peu comme tous les autres là, que je disais un petit peu plus tôt. Donc, des agences de tourisme, etc., etc.
OK. Donc, pour en savoir plus, pour vous rejoindre virtuellement, Aude Savard, parce que vous allez revenir parler de belles destinations. Donc, on vous rejoint comment sur le web?
Oui, vous pouvez m'écrire à voyageramobilitéréduite.com.
Voyageramobilitéréduite.com.
C'est mon blog.
Merci, Aude Savard. Au plaisir de découvrir d'autres destinations avec vous.
Ça va me faire plaisir.
Dites-nous, d'abord, est-ce que vous êtes devant un écran? Vous qui êtes à la maison, est-ce que vous êtes devant un écran? Oui? Ah bon, on me répond que oui. Eh bien, ça serait intéressant de savoir si votre clavier, juste devant l'écran, est accessible. Et qui d'autre que Vincent François pour bien nous expliquer ses options sur l'accessibilité des claviers? Ben, personne d'autre. Enfin, bonjour Vincent François.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc d'abord, dites-nous Vincent, qui pourrait profiter d'un clavier adapté?
Ben, en fait, un peu tout le monde, à commencer par les personnes en situation de handicap moteur au niveau des membres supérieurs. Mmh. On parle de tétraplégie, on parle de tremblement de la main, on parle évidemment des aveugles et malvoyants qui ne vont pas utiliser une souris pour interagir avec leur ordinateur. Mmh. Et puis au-delà donc, de ces personnes identifiées comme étant bénéficiaires en premier de l'utilisation d'un clavier, vous avez aussi toutes les personnes qui souffrent de micro-traumatismes, de troubles musculo-squelettiques, de TMS, comme on dit dans le jargon.
Oui, TMS, on dit ça souvent, mais c'est bien que vous le disiez.
C'est ça, c'est des mouvements répétitifs, c'est des efforts excessifs ou des positions articulaires extrêmes et qui se traduisent par des dommages et des douleurs au niveau des tissus mous, mm-hmm. les muscles, les tendons et les nerfs. Okay. Donc effectivement, quand on utilise sa souris au quotidien, son ordinateur, en fait, dans des positions qui sont souvent pas idéales, ouais. eh ben, on a ce genre de troubles qui se développent avec le temps et avec l'utilisation.
Ah, mais c'est très heureux. En fait, vous nous rappelez qu'il y a, bon, il y a des gens qui ont des déficiences, effectivement, voilà. mais à l'usage, on peut en développer.
Absolument.
Et c'est super
absolument.
Important,
oui.
Pas juste pour les personnes qui sont aveugles ou qui ont des déficiences, d'avoir oui. un bon clavier adapté.
Oui, oui.
Donc, alors, c'est quoi les enjeux maintenant qu'on sait qui en profite?
Alors, donc, les enjeux d'accessibilité, ben, c'est d'abord, pourra-t-on percevoir l'information qui sera cachée derrière un clic ou un survol de souris? Par exemple, si j'ai besoin de survoler la souris pour faire apparaître une couleur, un lien particulier, est-ce qu'au clavier, je vais être capable de faire la même chose? Donc, on va se méfier de ça.
Okay.
Est-ce qu'on va être capable de comprendre cette information qu'on aura perçue? Sait-on sur quel lien on se trouve actuellement quand on se promène avec la touche tabulation sur le clavier? Ben, si je fais entrée, quel lien je vais déclencher? Normalement, j'ai un indice visuel qui va apparaître dessus. Est-ce que le site web permet de le faire? C'est à des enjeux.
Okay.
Et puis au-delà de la perception et de la compréhension, c'est est-ce qu'on est capable simplement de se déplacer avec les flèches ou avec la touche tabulation à travers tous les liens, à travers tous les contrôles, après tous les éléments d'interaction qui sont sur le site. Donc
okay.
ce sont ça les trois grands enjeux de l'accessibilité du côté clavier.
Donc on concentre tout dans le clavier, c'est ça?
L'idée, c'est de s'assurer que tout ce qui fonctionne pour le site web à la souris doit fonctionner aussi au clavier.
Ok.
Donc l'idée, c'est qu'on doit être sûr de fonctionner. On n'a pas besoin de souris ou de trackpad ou d'outils comme ça, autres, de pointeurs. Le clavier doit nous rendre capables. Mais c'est ce qu'on faisait dans les années 80 ou début 90 en informatique. Il n'y avait pas de souris et donc c'était normal d'interagir tout au clavier. Mm-hmm. Même si on a des interfaces qui sont de plus en plus graphiques, on doit s'assurer de pouvoir fonctionner au clavier.
OK.
Alors pour ça, oui.
Mais non, allez-y, vous êtes sur une si belle lancée. J'ose pas vous aiguiller davantage.
Pour ça, en fait, c'est le contenu du site web qui doit être rendu accessible. Mm-hmm. Le clavier, c'est le clavier. Il est là, il est inerte, il est passif. Et ce qu'on veut, c'est s'assurer que quand on veut faire quelque chose sur le site web, on soit capable de le faire à travers son clavier.
OK.
Donc, c'est du côté de la production du site web que se fait la solution du problème.
Mais c'est important ce que vous dites. C'est oui. qu'on peut imaginer que tout peut se résoudre avec un beau clavier payé très cher.
Non.
Mais c'est vraiment dans le site qu'il faut travailler pour Exactement. Assurer une navigation complète.
Le clavier payé très cher ne résoudra aucun problème si on n'a pas rendu son site web accessible.
Okay.
Si on ne s'est pas assuré que toutes les fonctionnalités fonctionnaient au clavier.
Et donc, Vincent François. Ben oui, je savais que ça arriverait. Le marché doit nous offrir des options. Il existe, au-delà du clavier très cher, toutes sortes de possibilités, j'imagine.
Alors, comme dit la chanson de la soupe, là, il y en a des grands, des petits, il y en a pour toutes sortes de claviers. Mais c'est vrai, on a besoin de claviers plus grands pour des gens qui ont besoin d'objets plus gros à manipuler pour des questions de tremblement, etc. Des claviers plus petits, par exemple, quelqu'un qui n'a qu'une main de fonctionnel voudra s'assurer d'être capable de pouvoir faire toutes les combinaisons de touches avec une seule main. Il y a des claviers donc ergonomiques qui vont s'adapter à des postures, à des problèmes de forme des mains. Il y a des claviers qui vont avoir un repose-poignet intégré ou à côté, donc qui va permettre de moins fatiguer la main. Vous avez des claviers avec un guide doigt, c'est-à-dire des petits... Autour de chaque touche, vous avez des petits murets qui font que...
J'ai un ami qui utilise... il appelle ça son rack à clavier.
Ouais.
C'est comme... Il faut quand même donner les mots de substitution. Mais donc, par-dessus le clavier, c'est comme si on ajoutait un stencil ou une espèce de marque.
Donc, quelqu'un qui tremble va s'assurer comme ça qu'avant d'appuyer effectivement sur la touche, il soit sûr d'être sur la bonne touche.
Voilà.
Ouais. Un peu comme un effet d'entonnoir, quoi. Et puis, il y a même des claviers virtuels, visuels, qui s'affichent à l'écran. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser avec la souris. Donc, ça prend la souris pour utiliser le clavier. Ce qui est assez... un concept un peu plus original, mais il y a tout un tas de raisons dans lesquelles on ne peut pas avoir le clavier physique.
Ben oui, voilà. Pas oublier que chaque personne a vraiment des particularités. Il faut être capable d'offrir ce qui est le mieux pour chacun, chacune. Des fois, c'est subtil. La souris pourrait être le meilleur instrument pour naviguer pour certaines personnes.
Oui, ouais. Mais souvent, il se trouve que c'est quand même beaucoup plus efficace, quoi. Moi qui travaille dans le métier de l'informatique depuis longtemps, le clavier est quand même plus précis.
Ouais.
On est sûr de ce qu'on fait.
Voilà.
On revient plus souvent en arrière. Donc, si c'est accessible pour les personnes handicapées, ça sera aussi plus efficace pour tous les autres utilisateurs.
Ben, c'est comme ça qu'il faut le penser. Merci Vincent François pour vos bons conseils. On vous retrouve d'ailleurs, si on veut en savoir plus, sur consultation-boreal.com. Merci Vincent François.
Merci.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Racette.
C'est du 22 au 24 mars que se tiendra le 42e congrès de l'Institut des troubles d'apprentissage. On avait d'ailleurs reçu plus tôt cette année la directrice générale de l'organisme. Et que vous ayez l'occasion d'y être ou pas, on aimerait vous présenter un aspect fondamental qui sera discuté, notamment dans le cadre de ce colloque, l'accommodement raisonnable lorsqu'une personne présente des troubles d'apprentissage. Donc, pour bien nous présenter cette situation, on reçoit Joanne Magloire, qui est agente d'éducation et de coopération à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Bonjour, Joanne Magloire.
Bonjour.
Content que vous soyez là de nouveau.
Ça me fait plaisir.
Donc, je vous lance la question tout de go, là. En quoi les étudiants présentant des troubles d'apprentissage sont-ils lésés dans le contexte des établissements d'enseignement?
En fait, où les étudiants en situation d'apprentissage, en trouble d'apprentissage, pardon, peuvent être lésés, c'est au niveau des services qui ne reçoivent peut-être pas ou qui sont inadéquats finalement et qui ne répondent pas à leurs besoins.
C'est tout simple. Et donc, vous parlez des services de manière générale, puis aussi peut-être les services dits spécialisés, c'est ça?
Exactement.
OK. C'est quoi les devoirs des établissements d'enseignement là, envers les élèves qui présentent ces troubles d'apprentissage?
En fait, vous dites les devoirs, puis j'irai même un peu plus loin en parlant d'obligations.
Aha.
Donc, les établissements d'enseignement ont des obligations envers les élèves, justement, qui ont des troubles d'apprentissage. L'obligation d'accommoder ces étudiants et d'offrir des services et vraiment de faire une bonne évaluation, finalement, des besoins de ces étudiants et d'offrir des services, finalement, exempts de discrimination.
Donc, encore une fois, c'est toujours clair, il faut prendre en considération les besoins réels des personnes et voir si la machine peut s'organiser pour donner les services.
Oui, la machine doit s'organiser pour
elle doit,
ses...
oui.
Exactement,
c'est
ça. Ses services.
Et c'est important de rappeler qu'il y a quelque chose de très, très structurant, un avis que vous avez formulé en 2012. Je peux le lire là, pour les gens qui nous écoutent. Vous pouvez le repérer ensuite sur le web, parce que bon, je trouve que cette émission-ci est presque devenue web libre. Là. Je suis désolé. Mais donc, l'avis que vous avez formulé est très important, c'est l'accommodement des étudiants et étudiantes en situation de handicap dans les établissements d'enseignement collégial. Donc, c'est en 2012, c'est très important. Rappelez-nous, c'était quoi les grandes lignes de cet avis-là?
Oui, en fait, c'est parce qu'on recevait beaucoup de demandes, de plaintes, et on voyait qu'il y avait une problématique. Donc, on voyait l'émergence, justement, des étudiants, notamment ceux qui ont des troubles d'apprentissage, qui voulaient s'inscrire au collégial, recevoir des services, etc. Mais le milieu n'était pas nécessairement préparé à cette émergence-là.
Particulièrement collégial?
Collégial et, disons, le post-secondaire. Au préscolaire, primaire, il y a déjà aussi la loi sur l'instruction publique, des politiques d'adaptation scolaire, etc. Mais au collégial, ils n'ont pas ces lois-là.
Ah oui, c'est vrai, rappelons, c'est vrai que ce grand droit à l'éducation, là, qui est même présent dans la Déclaration des droits de l'homme, etc., dans l'appliquer... ça concerne pas nécessairement les études postsecondaires, hein, c'est ça?
Exactement. Mais par exemple, il y a la charte.
Mais la charte au Québec, oui.
La charte au Québec et même la charte canadienne et d'autres éléments plus, au niveau international. Et on a dû rappeler au milieu collégial, justement, bon, la large portée de notre charte québécoise, mais aussi qu'ils avaient les mêmes obligations. Par exemple, à l'article 12 de la charte qui dit qu'on doit offrir des services où les services offerts ordinairement offerts au public, ça correspond et ça comprend les services qu'offre le milieu collégial.
OK. Donc, si je comprends bien ce que fait cet avis-là, ce que démontre cet avis-là, c'est que peu importe le niveau où on doit étudier, il faut offrir les accommodements raisonnables.
Exactement, parce qu'il y a l'article 10, le droit à l'égalité, et c'est bon pour tout le monde. Donc, c'est bon pour à tous les niveaux d'enseignement, exactement.
OK. Entrons maintenant dans le cœur. Comment ça se passe là, dans la machine, comme je disais plus tôt? Dans votre avis, vous parlez bien sûr de l'organisation et du financement des services. On le sait tous, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Est-ce qu'il existe aujourd'hui, de fait, des bons programmes là, pour assurer les services au niveau collégial puis à l'université? Est-ce que vous avez pu apprécier ça?
Oui, vraiment, le postsecondaire a été très proactif, justement, et a réagi rapidement. Et on avait fait une table de travail, justement, avec tous les acteurs là, du milieu postsecondaire. Et c'est bien de constater, justement, l'évolution du milieu. Donc, ils ont essayé de se doter d'outils pour mieux évaluer les étudiants, mieux les cibler.
Okay.
Et avoir l'important pour nous dans cet exercice-là, c'était vraiment d'avoir une compréhension commune de cette obligation d'accommoder.
Okay.
Et je pense que, bon, tout n'est pas rose, mais je pense qu'on a vraiment évolué dans ce sens-là. Donc, on a une meilleure compréhension de l'obligation et le postsecondaire s'est vraiment mis en marche pour offrir tous les services, finalement, nécessaires et faire une bonne évaluation des étudiants là, qui sont sous leur toit.
OK. Mais ça, c'est évidemment l'évaluation. Pendant que les gens nous écoutent, là, j'ai l'impression qu'ils doivent se dire, oui, mais OK, les troubles d'apprentissage, bon, moi, j'ai un enfant à qui on a dit, bon, il présente un trouble d'apprentissage, mais pour les gens qui nous écoutent, là, c'est quoi l'étendue des troubles d'apprentissage? De quoi on parle exactement?
Bien, les troubles d'apprentissage, c'est très une étendue très large. Donc, par exemple, on peut penser à des enfants qui ont une dysphasie, dyspraxie, dysorthographie, okay. etc., etc.
Oui, ça c'est des mots quand même qu'on entend depuis peu. Hein. Dysorthographie, oui. Ça veut dire, vous avez peut-être déjà entendu, là, la dyslexie, j'ose dire, était très populaire, là, c'est un peu plus connu, mais la dysorthographie, qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes pas orthopédagogue, là, je m'excuse, mais pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est exactement?
Ben, en fait, c'est au niveau, justement, de l'orthographe. Donc, c'est tous ces troubles-là, en fait, c'est dans la façon d'analyser, traiter l'information. Donc, ils ont une façon de traiter l'information différemment.
Okay.
Et chaque trouble a sa façon d'interpréter l'information qui leur est propre.
OK.
Donc, en gros.
Donc, on a toute notre manière d'apprendre. Ça fait peut-être 40 ans que les pédagogues le disent. C'est le fun que la commission nous le rappelle maintenant.
Oui.
Mais on revient au service. Donc, tous ces troubles-là sont possibles, des manières différentes d'apprendre, d'écrire, etc. Mais les services qu'il y a à côté là, pour pallier ces handicaps-là, de quoi on parle exactement? Puis est-ce qu'ils sont bien financés? Je sais que c'est trois questions. Là, mais...
Oui, je réponds du mieux que je peux.
Je suis désolée.
Non, ça va. Non, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est vraiment du cas par cas. Donc, faire une bonne évaluation, c'est sûr qu'on peut regrouper des différents troubles d'apprentissage ensemble, mais il n'y a pas de solution unique. Il faut vraiment prendre le temps de faire l'évaluation cas par cas de chaque étudiant, d'évaluer leurs besoins et d'essayer, dans le fond, l'obligation d'accommodement, ce que ça dit, c'est d'essayer de trouver des solutions, des moyens pour pallier au handicap. Donc, c'est ça qu'il faut retenir de tout ça.
Ouais.
Au niveau financier, surtout pour les troubles d'apprentissage, les gens, avant de parler de contraintes excessives, de coûts financiers, ben, on voit que pour les troubles d'apprentissage, il y a plusieurs mesures qui ne coûtent pas finalement beaucoup d'argent à mettre en place. Donc, donner plus de temps, par exemple, à l'étudiant, donner les leçons d'avance, préparer des questions pour l'enseignant, etc. Des fois, c'est surtout dans l'organisation des services, qui fait que pour certains établissements, ça devient lourd à gérer parce que des fois, on a des organisations de services, puis il faut que l'enfant ou l'étudiant cadre dans cette organisation-là au lieu de voir, à l'inverse, planifier l'organisation des services en fonction des besoins des étudiants.
Bien, j'ai même vu d'autres pratiques aussi, là. Vous parlez de ce qui coûte pas cher, donner plus de temps, etc.
Mm-hmm.
Je pense, entre autres, il y a des profs qui ont fini par accorder le tiers-temps à tout le monde, justement, parce que il peut avoir effectivement des besoins évalués, très évalués, mais il peut avoir aussi toutes sortes de situations, des enfants qui sont un peu plus anxieux, etc., etc. Est-ce que vous trouvez que c'est une pratique qui va dans le sens des accommodements raisonnables?
Oui, tout à fait. C'est une belle approche inclusive à avoir et à développer. Par contre, j'ai toujours une petite mise en garde par rapport à ça. Il ne faut jamais oublier quand même l'évaluation cas par cas de l'étudiant. Donc oui, c'est des bonnes façons d'approcher, de mettre en place, des bonnes pratiques à mettre en place, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a une obligation légale de regarder quand même le cas par cas.
Parfait. Joanne Magloire, écoutez, j'ai une colle pour vous. on est parents, supposons, en fait, c'est des cas que j'ai croisés, on est parents, il est inscrit au dossier, tel problème, il y a un plan d'intervention pour l'élève ou même l'étudiant. Est-ce que ça peut lui être préjudiciable si un jour il veut aller en sciences, en biochimie, à McGill, par exemple? Est-ce que le fait d'avoir au dossier la présence de troubles d'apprentissage, ça pourrait éventuellement nuire?
Ben, en fait, ça ne devrait pas du tout. Si la personne a réussi, son DES, son diplôme d'études secondaires et poursuit sa scolarisation avec des moyens qu'on a mis en place pour répondre pour pallier à son handicap, puis il réussit, il y a les notes, il y a tout ce qu'il faut, alors il n'y a aucun problème pour cet étudiant-là de continuer ses études.
OK. Mais il existe des recours, si jamais... c'est compliqué, là, c'est une grande question. Question que je vous pose. Mais supposons qu'on sent que au dossier, la présence au dossier de telle note ou telle déficience, on nuit à l'acceptation d'une candidature. Est-ce qu'on a des recours?
Tout à fait. Ben, si on pense qu'on a été discriminé par rapport justement au handicap ou les accommodements qu'on a reçus, ben, on peut toujours porter plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
OK. Je vais redonner tantôt le site web, mais je me garde une gêne pour l'instant qu'on en a nommé à peu près 18 ou 30 secondes là, tout au cours de l'émission. Écoutez, donc, si on comprend bien, peu importe le niveau scolaire où se dirige votre enfant, il a droit à des accommodements raisonnables, mais il faut les demander, hein? C'est ça, hein? C'est ça l'important. Hein?
Ben oui, il faut prendre connaissance de ses droits. Il faut le demander, prendre le temps de s'asseoir avec justement les différents acteurs autour d'un plan d'intervention, les inscrire dans un plan d'intervention pour s'assurer que l'intérêt de l'enfant est respecté, le meilleur intérêt de l'enfant est respecté. Donc ça, c'est très important. C'est toujours quand je parle à des parents, je leur précise ça, de prendre part à ce plan, à cette médiation avec les différents acteurs, reconnaître l'expertise de chacun pour faire un bon plan, pour faire une bonne évaluation des besoins des étudiants.
OK. Donc, juste pour qu'on revienne maintenant, parce qu'il y aura le 42e congrès de l'Institut des troubles d'apprentissage qui se tiendra du 22 au 24 mars, là, auquel vous allez participer. Vous allez vous adresser à qui? À des professeurs? À des parents? À qui vous allez parler?
Oui, pour participer presque chaque année à ce congrès annuel, c'est très diversifié. Mon public, quand je donne des conférences au congrès annuel de l'Institut des troubles d'apprentissage, parce que je peux retrouver dans la salle, des fois, il y a des parents, des enseignants, différents intervenants dans le milieu scolaire, des gestionnaires aussi. Donc, j'ai vraiment un public très diversifié. Puis
lesquels réagissent mieux? Juste comme ça, ça m'intéresse, je suis curieux.
Ah, ben, je pense que c'est vraiment par souci d'avoir une vision commune, un vocabulaire commun, une meilleure compréhension de l'obligation d'accommoder. Donc, je ne peux pas dire si d'autres réagissent moins bien. Je pense que tout le monde ressort de cette formation, présentation avec des outils et une meilleure compréhension, j'ose l'espérer, là, de l'obligation d'accommoder.
OK. Donc, si on veut en savoir plus sur le 42e colloque auquel vous participez, Mme Magloire, on peut se rendre sur le web. Donc, je vous l'appelle à l'instant, instituta.com, donc instituta.com, /congrès/congrès-2017. On rappelle aussi qu'on peut trouver plus d'informations sur la commission, n'est-ce pas, Mme Magloire?
Oui, tout à fait. Si vous voulez, je vous donne le site à www.cdpdj pour Commission Droits Personnes Droits Jeunesse.
Donc, le site de la Commission des droits de la personne fourmille de toutes sortes de trucs et astuces, mais surtout, explique clairement ce que sont les accommodements raisonnables, puis vous accompagne. On a souvent parlé de cette portion du site, le guide.
Allez-y. C'est notre guide virtuel, justement, pour aider les gestionnaires lorsqu'ils reçoivent des demandes. On a fait un guide qui explique les différentes étapes à suivre, finalement, quand on reçoit une demande d'accommodement.
Parfait.
Et apprécié du milieu.
Très bien. Donc, Mme Joanne Magloire, qui est agente d'éducation et de coopération à la Commission des droits de la personne, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation.
Bon congrès.
Merci.
Au revoir. Okay.
Chose qui me soit arrivée, une chance que la vie m'a donnée, l'équilibre et l'indépendance que j'aime, la clairvoyance dans mon poème. Depuis toi, j'ai du fun à jouer le jeu, belle éclaircie dans mes yeux. T'es un éclair dans mon sang génie, le roc en dessous de ma folie t'embellit ma vie, t'embellit ma vie. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée, mon harmonie inespérée. J'avais jamais connu un phénomène pareil, un un lever de soleil avant le soleil. T'es une envoyée des dieux, ma vision du grand bleu. Un ciel sans nuages, une cathédrale, au vent doux sous les étoiles. Oh, ma dose, mon apothéose, mon grand fly. 9 ans pis je suis encore ben aïe. T'embellis ma vie. T'embellis ma vie. T'embellis ma vie. T'embellis ma vie. Belle, toujours ensoleillée, un feu de joie comme on n'en voit plus. T'es une révolution dans mon décor, tu changes le plomb en or. By the way, les pompiers sont venus, on a leur ok, tout est beau, on peut brûler d'amour, oh yeah. La terre est fertile, y a des framboises, y a des bouleaux. La rivière est bonne, viens donc baigner tout nu. Fire mon âme, love mon cœur. Fire love, oh Marie ma douceur, t'embellis ma vie. T'embellis ma vie. T'embellis ma vie. T'embellis ma vie.
C'est Yann Perrault qui embellit notre vie et qui annonce un peu ce futur segment, enfin ce segment, ce dernier segment de l'émission, ce navire-là qui arrive dans le port et sous le ciel et peut-être embellit nos vies, surtout quand il est accessible. Bon, okay. Assez de mystère. Maintenant, on voit clair avec Isabelle Ducharme, qui n'a plus besoin de présentation, présidente de Kéroul, qui vient nous parler de navires accessibles. Bonjour Isabelle Ducharme.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Ça fait plaisir.
Donc, si on regarde au large, il y a un rendez-vous, le rendez-vous 2017 qui se dessine. C'est dans le cadre du 150e anniversaire. Parlez-nous donc de ça un peu mieux, Isabelle Ducharme.
Oui, effectivement, c'est un grand rendez-vous dans le cadre des célébrations de la fête de la Confédération. Mm-hmm. Ça déroule quand même sur une longue période, du 30 juin au 20 août 2017.
Ah oui, donc tout l'été.
Et donc, toutes sortes d'activités dans plusieurs ports canadiens, dont une grande flotte de voiliers historiques qui se prête à une espèce de régate transatlantique.
Ah oui,
donc... qui va toucher 6 pays, dont le Canada. Donc, on est quand même assez choyé. Okay. Et au Canada, ça va s'arrêter encore plus agréable pour nous, Québécois, dans les ports de Québec.
OK.
Donc, ça va être à la mi-juillet. Et dans le même cadre, en fait, dans la même période, c'est là où ça nous intéresse encore plus, il y a le Jubilee Sailing Trust, qui est un organisme de bienfaisance dont l'objectif est de rendre la navigation accessible aux personnes en situation de handicap, mais en fait, à tous.
OK. Donc, ce que le Jubilee Sailing Trust permet de faire, c'est de nous donner accès, entre autres, à 2 navires, c'est bien ça?
Oui.
On parle, attendez, les mots sont magnifiques, mieux encore qu'une toune de Yann Perrault, le Tenacious et oui. Lord Nelson.
Oui, effectivement.
D'habitude, c'est des noms de femmes, les navires, non? C'est juste dans la marine anglaise, ça?
Bien, je pense, je ne sais pas d'où ça vient, hein, le terme. C'est vrai qu'on entend tout le temps des noms de femmes pour les petits bateaux de plaisance.
De plaisance, oui.
Mais,
les grands voiliers comme ça, c'est des noms d'hommes.
Ça semblerait.
C'est macho.
Mais bon. En fait, je vous dirais que ce qui est intéressant, c'est que entre autres, c'est les premiers à faire ce genre de grands navires-là.
Oui, c'est important ça.
Pour les gens qui veulent s'imaginer un peu, là, ça ressemble vraiment au Blue Nose. en termes de bateau. C'est vraiment à l'ancienne, fait en bois, avec des grandes voiles. Le Tenacious est plus a plus tendance à mettre ses voiles en partance de l'Angleterre ou de l'Australie.
Okay.
Le Lord Nelson aussi, mais heureusement pour nous, là, je pense que parce qu'il est un... Peut-être par rapport à sa grosseur, en tout cas, c'est plus possible pour lui là, de venir à Québec.
Donc, ces deux navires-là sont complètement accessibles. On n'offre pas seulement des croisières. Là. Il est possible de les visiter, c'est bien ça?
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à la base, ces deux navires-là sont conçus pour qu'on y devienne des matelots. Donc, on fait partie de l'équipage.
Ah,
on ne fait pas une croisière de plaisir, là. On vient apprendre, on vient se débrouiller dans toutes les tâches qui sont possibles de faire sur un bateau. Donc, c'est un bateau qui est quand même assez grand, qui est 55 mètres de long, qui peut prendre environ une quarantaine de personnes à la fois là, de matelots. Un petit peu plus si c'est juste pour un départ d'une journée. Là.
Mais donc, tout ça est adapté quand même pour les personnes en situation de handicap. Vous allez pouvoir, vous comme moi, devenir moussaillon, là.
Oui, absolument. Ce qu'ils nous disent, en fait, c'est que sur les 40 matelots invités, il peut y en avoir la moitié qui se retrouvent en situation de handicap. C'est une question de pouvoir faire des pairages, une personne qui n'a pas d'handicap avec une personne qui en a, pour s'assurer que chacun y trouve à son compte, que personne se sent insécurisé, etc. Bien sûr, il y a des membres de l'équipage qui, eux, sont des gens habitués, bien aguerris. Mais ce qui est intéressant, c'est que, justement, qu'on ait une déficience visuelle, une déficience auditive, une déficience motrice ou même des gens avec des spectres de l'autisme, on nous invite à bord. Et on nous fait faire des tâches en fonction de nos capacités, bien sûr. Si, en fonction de ma déficience motrice, je suis pas capable de couper des aliments dans la cuisine, on va pas m'amener dans la cuisine puis me chicaner parce que je suis pas capable de le faire.
Mais
par
contre,
tout ce qu'on est capable de faire, on va nous l'attitrer. Et donc, quand on arrive à bord, on a notre journal de bord qui nous dit, aujourd'hui, à telle heure, vous allez être en cuisine. Demain, à telle heure, vous allez faire, vous avez lavé les ponts. À un certain moment donné, vous allez aider à diriger le voilier. Donc, c'est vraiment des tâches très diverses, mais adaptées en fonction de nos capacités.
OK. Donc, ça, c'est spécifiquement pour le Lord Nelson, c'est bien ça?
Oui.
OK.
En fait, ça se fait sur les deux, mais là, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est le Lord Nelson, puisque c'est lui qui vient à Québec. Et d'ailleurs, on peut partir dans un séjour à partir de Québec, mais si jamais, pour vous, c'est pas possible cet été, puis c'est quelque chose qui vous intéresse, il n'y a aucun problème à prendre l'un des deux bateaux qui partirait d'une autre destination qui nous intéresse. Là, on pourrait partir de Londres, on pourrait partir de Sydney en Australie. C'est pas parce qu'on est Québécois qu'on est obligé de prendre celui qui part de la ville de Québec.
Bon, OK. Donc, vous nous invitez à voyager un peu partout dans le monde. Mais au-delà du fait, il y a bien sûr les croisières qui sont possibles. Mais est-ce qu'il est possible de simplement le visiter, le voir pendant le rendez-vous 2017?
Oui, c'est ça. C'est une de nos choses qui sont quand même intéressantes aussi pour nous. Si on a moins le pied marin, mais on est très fasciné par les bateaux, on veut savoir un peu comment ça fonctionne, ou même on veut avoir un avant-goût pour éventuellement décider si on va faire un de ces voyages dans le futur, bien, le bateau, il va arriver le 19 juillet dans les ports de Québec.
Okay.
Et il pourrait être visité le 20 et 21 juillet par le grand public.
Et c'est même...
Il va être ouvert comme 5 heures par jour. Là.
Bon, alors on peut, pendant 10 heures comme ça en deux jours, voir ce fabuleux bateau, le Lord Nelson.
Oui, et si jamais vous êtes intéressé par vraiment l'aventure, mais le départ de Québec se fait le 22 juillet, puis c'est pour un séjour d'une semaine.
OK. Donc, on peut avoir plus d'informations d'ailleurs au www.jst.org.uk. C'est bien ça?
Exactement.
Donc, si vous avez envie de faire la semaine en entier, puis que vous avez l'argent aussi, parce que c'est quand même plus de coûts, là, vous pouvez vous rendre là. Sinon, moi, j'ai appris que vous aviez eu Fière Allure Off the Seas en décembre dernier. C'est bien ça?
En fait, non.
Non,
c'est,
pas vous.
C'est une croisière qui s'en vient.
Ah, qui s'en vient.
Oui.
En décembre 2017. Ah, voilà,
oui.
Voilà. OK.
Oui.
Donc, vous n'avez pas eu encore Fière Allure of the Seas, mais
non,
ça va venir.
Non, mais par contre, pour avoir déjà voyagé sur un autre bateau de la même compagnie, je peux vous dire que ça vaut vraiment la peine.
Okay.
Donc, pour les gens qui seraient intéressés, c'est sur le Allure of the Seas. C'est un séjour d'une semaine. Et c'est... En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on a vraiment... C'est un agent de voyage d'ici, à Montréal, qui a réservé des cabines adaptées et des cabines régulières, bien sûr. Donc, on peut s'assurer là, d'être dans un environnement bien accessible.
Et sécuritaire.
Déjà, les croisières, c'est magnifique en termes d'accessibilité.
Ouais.
Et on est accompagné aussi d'un guide. Donc, si on est un petit peu plus inquiet là, dans les déplacements... un groupe accompagné par un guide qui est francophone.
Mm-hmm.
Et le bateau va s'arrêter, part de Fort Lauderdale, mais il va s'arrêter à Haïti et à Cozumel.
OK.
Donc, et c'est vraiment un des plus grands bateaux au monde. Lorsqu'il a été conçu,
Isabelle Ducharme, malheureusement, vous nous appelez à trop de belles aventures. Ça se termine déjà là pour nous. Isabelle Ducharme, présidente de Kérul. Donc, pour plus d'informations, on peut se rendre aussi sur le site de Kérul, non? Ou sur un site quelconque? Est-ce que vous pouvez nous nommer ça à l'instant?
Oui. Bien, en fait, on peut communiquer avec Mme Clément, 514-351-5814. Sinon, sur le site de Kérul, kérul.qc.ca.
Alors, c'est dit. Merci, Isabelle Ducharme. Alors, pour avoir plus d'informations sur les intervenantes et les organismes qui viennent ici, n'hésitez pas à visiter la page de l'émission Accès libre, repérable à canalm.vuesetvoix.com. Donc, plein d'intervenants magnifiques aujourd'hui pour parler beaucoup voyage et aussi pour parler de cette question vraiment difficile, la maltraitance des aînés. Surveillons ça. Il y a une loi, la loi 115, qui sera bientôt adoptée. On espère qu'on mettra dedans tous les ingrédients pour bien protéger les droits des personnes. L'équipe est géniale, on le sait, semaine après semaine. Alors, je remercie Martin Forgue à la recherche, Christiane Campagna aux communications et à toutes les services autour de l'émission pour que ça fonctionne. Et aussi Jean-Sébastien Laliberté, le magicien de la mise en onde. Ici Benoît Rassette. On se reparle la semaine prochaine. D'ici là, ben, on va essayer de faire un véritable accès libre.